Top, c'est parti.
Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
C'est votre dernier mot.
Il est 9h40, vous êtes sur France Inter et c'est le début de l'Instant M.
Bonsoir, merci d'être avec nous.
Les images, les correspondants en direct.
C'est une aventure le journalisme et c'est pour ça que la télévision est encore magnétique.
Fracture hier dans l'équipe de l'Instant M lorsque nous nous sommes rendus compte que Marion Philippe et Redouane Tella étaient nés après la chute du mur. Mais comment peut-on être né après la chute du mur? Alors que cela a marqué nos enfances à Anne-Cécile Perrin et à moi. Sa mère à elle était professeure d'allemand. La mienne avait fui plus jeune un régime communiste de l'Est. Alors imaginez ce qui s'est passé dans nos deux foyers, émus, sidérés, les yeux rivés sur le poste de télévision. Oui, nul n'a oublié ces séquences de télé, car nous vivions alors deux révolutions majeures dans l'histoire du XXe siècle. L'une géopolitique, l'autre médiatique. Berlin, novembre 1989. Nous y étions, nous, Français, grâce à l'information télévisée. Nous y étions en direct et en images, sans studio, sur place, à même la rue, à même l'événement. C'était la première fois. Les 20h n'en seront plus jamais les mêmes après cela.
L'Instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Madame, Monsieur, bonsoir. Le 9 novembre 89, aujourd'hui. Retenons bien ces dates. Le mur de Berlin est toujours là. Mais d'une certaine manière, il n'existe plus. Le rideau de fer, qui depuis 28 ans sépare les deux Allemagnes et comme une longue blessure, les deux Europes, le rideau de fer a été aujourd'hui effacé, effacé par la pression d'un peuple sur un régime à bout de force.
C'est extrêmement émouvant cette archive, Christine Ockrent. Bienvenue sur France Inter et bonjour.
Bonjour.
Parce que Günther Schabowski, apparatchik est-allemand, annonce la possibilité nouvelle pour des particuliers de pouvoir passer la frontière. Il commet une sorte de lapsus. Il dit ça va se faire immédiatement. Et là, il y a une forme d'emballement médiatique. À 19h04, il y a une dépêche de l'agence américaine AP. À 19h20, il y a une dépêche de l'agence France Presse. Et vous, à 20h, vous l'annoncez aux Français, alors que tous les journalistes sur place à Berlin sont plutôt circonspects, sont plutôt prudents. Vous avez senti le vent de l'histoire, vous avez pris un risque journalistique.
Un risque sûrement, mais enfin un risque fondé, parce qu'à partir du moment où des agences de presse qui, à l'époque surtout, avaient le temps aussi d'explorer, de vérifier auprès de leurs propres sources ce qui était en train de se passer, parce que il y avait des faits, c'était pas seulement la rumeur. Il y avait effectivement un garde frontière est-allemand qui avait presque par inadvertance dit « bah oui, allez-y, passez ».
Et puis il y avait donc cette conférence de presse quelques heures auparavant.
Donc il y avait plusieurs éléments qui permettaient effectivement d'affirmer que le mur vacillait. Mais là où on a été bon, c'est que dans la nuit, effectivement, du 9 au 10, on a décidé d'y aller,
le rire.
On s'est vraiment mobilisé à plusieurs. Alain Vider, qui était mon copilote en quelque sorte.
Et directeur de l'info.
Il était co-rédacteur-chef avec moi, donc.
D'accord.
Bref, et la direction de l'info. On a pu affréter un avion, on a pu débarquer à Berlin à l'aube du 10 novembre. Nous nous sommes installés, je m'en souviens très bien, dans les baraquements militaires français, parce qu'il y avait encore un contingent français.
Oui.
À Berlin-Ouest. Et puis, on est venu surtout avec notre ami Yves de Villers et des tonnes de caisses en tout genre, parce que aujourd'hui tout cela paraît tellement simple, n'est-ce pas, de vous appuyer sur votre téléphone portable et en gros vous tapez n'importe quel satellite et vous avez des images à peu près de partout dans le monde. À l'époque, non.
Non.
Et donc de Villers part avec nous, bon, on négocie quand même un peu, c'était avec tout son matériel, et on s'installe, on décide de s'installer donc près du checkpoint Charlie, ce qui était le
c'est très émouvant passages. Pour moi, hein, parce que le De Villers en question, c'est mon oncle, donc c'est une jolie histoire qu'on m'a racontée.
C'est pas de sa faute.
Non, c'est une jolie histoire qu'on m'a racontée quand j'étais petite. À vos côtés, Christine Ockrent, ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Hervé Brusigny.
Salut.
Bonjour Hervé, ancien rédacteur-chef du JT de 20h et patron patron de l'info sur France 3 et fin connaisseur de l'histoire, hein, justement, du journal télévisé, parce que ce jour-là, comme le raconte Christine Ockrent à vos côtés, le journal télévisé a changé et changé durablement. C'est la naissance d'une nouvelle grammaire de l'information et on va en parler ensemble avec vous deux, car le soir du 9 novembre, Christine, vous êtes encore à Paris, donc il faut qu'on se remémore comment c'était l'info à l'étranger à chaud à l'époque. Votre correspondant s'appelle Philippe Rochaud.
Philippe Rochaud, vous êtes sur place à Berlin-Est. Est-ce que l'on connaît la nouvelle à Berlin ? Quelle est la réaction dans la rue ?
Écoutez, elle commence à se répandre et on a vraiment l'impression que c'est un symbole qui vient de tomber. Depuis que les visas n'étaient plus nécessaires pour la Tchécoslovaquie, il y avait toujours la sensation qu'on pouvait partir vers
Alors,
la fédérale,
Hervé Brusigny, décrivez-nous à quoi ça ressemblait à l'image. Il y avait une petite photo du monsieur à l'écran à la gauche de Christine Ockrent et puis un son téléphonique plus ou moins bon.
Oui,
c'est ça?
Ça arrive encore un peu aujourd'hui.
Oui,
mais
ça arrive parfois.
Ça semble l'archaïsme le plus total. Philippe a été formidable parce que vous savez que lui, quand il est sur place, effectivement, il prend la nouvelle de plein fouet parce que il revient de l'Est, il croise des gens qui sont passés à l'Ouest et qui reviennent parce que les gens de l'Est ce soir-là sont revenus.
Oui.
Et ça va
Donc ils témoignent et qui disent
témoignent et
c'est possible.
Mais alors oui, c'est vrai, le mur est tombé, il va croiser des ramoneurs incroyables de l'Est et faire comme ça son premier papier.
Je voudrais que vous nous expliquiez, parce que on l'a raconté déjà ensemble ici dans l'Instant M, Hervé Brusigny, l'histoire de ce JT. Le JT, en France, il est né en direct. Mais c'était les commentaires qui étaient en direct.
Oui.
Ce n'étaient pas les images. Les images, c'était du reportage, c'était du montage. C'est ce que vous appelez dans votre jargon de la boîte.
Oui.
Voilà. Et ça, c'est toute l'histoire de l'information à peu près jusqu'à cette période-là.
Oui, mais l'histoire de l'info, c'est la volonté d'être au plus près de l'événement.
Oui.
C'est même constitutif de l'histoire de l'info. Vous savez, sans remonter à Mathusalem, mais il y a un journal qui s'appelle Le Matin, en 1884, il dit « Moi, je fais de l'info du télégraphe, de l'info universelle et vraie ». Donc, plus le journalisme a toujours voulu être au plus près du surgissement
mais
de l'événement.
Mais cette caméra... En direct.
Et avec le direct, ça a lieu enfin via le satellite, comme l'a
expliqué Christine. Via le satellite, on va en y venir avec Christine.
Parce que c'est la technologie qui change. C'est la technologie qui conduit, depuis l'exemple que cite Hervé, c'est la technologie qui nous permet, une technologie balbutiante à l'époque.
Oui, balbutiante.
Mais qui nous permet... cette avancée, mais en trébuchant.
Qu'on comprenne bien la différence. Mmh. Quand dans les années 50, la reine Elisabeth II est couronnée et qu'on le voit en direct à la télévision, on n'est pas enfermé dans un studio. Ce sont bien des caméras qui sont placées à l'église, enfin dans la cathédrale et puis sur le parcours du cortège.
Et c'est un choc.
Et c'est un choc énorme. Mais ça signifie quoi ? Ça signifie que c'était faisable quand les événements étaient prévus longtemps à l'avance ?
Ah oui, parce qu'il a fallu une armada du côté de la BBC pour pouvoir mettre en place ça avec un jeu de rebond qui était à l'époque terrestre et non pas satellitaire, comme disait Christine.
On va y venir.
Mais donc, le choc a été l'instantanéité, la fusion, la synchronisation entre le fait d'être... La simultanéité d'être le téléspectateur, le spectateur de l'événement. Le journaliste commente l'événement en direct et le spectateur y assiste. Ça, c'est fondamental.
Ça, c'est fondamental.
Oui.
Mais techniquement, ça n'est possible que parce que c'est prévu longtemps à l'avance
à l'époque,
et que la télévision a pu s'installer. Alors, on va l'écouter, l'autre choc, celui du direct fabriqué dans la nuit, comme vient de l'évoquer Christine Ockrent. On est donc le 10 novembre, on est donc en direct sur France 2. Et les images, elles ont mis un peu de temps à arriver. On l'entend dans votre voix, Christine.
Christine, vous m'entendez ?
Oui, Daniel, je vous entends très mal, mais nous sommes ravis d'être enfin en liaison image avec vous, parce que depuis 20 heures précises, depuis l'ouverture du journal, la scène ici est étonnante. Je vous le disais par téléphone il y a un instant, le chancelier Helmut Kohl franchissait la foule, tant bien que mal, pour aller à son tour vers le mur. Et vous entendez ces cris. On salue ainsi l'arrivée des voitures qui continuent de venir de Berlaès.
Vous savez, quand vous dites, Christine Ockrent, je vous entends aussi et je vous l'ai dit tout à l'heure par téléphone, c'est qu'au départ, seulement votre voix a été entendue par les téléspectateurs.
Non, ce qui
l'image
se passe,
a mis du temps à arriver.
C'est que De Villers, avec sa trentaine de caisses, installe son matériel de façon à ce que nous puissions prendre l'antenne à 20h pour l'ouverture du journal en France. À 20h moins une, tout est prêt.
Tout est prêt.
Tout est prêt. On a même installé des tréteaux, parce que nous avions pris soin, tu t'en souviens Hervé, d'inviter un certain nombre de commentateurs français ou d'experts.
Absolument.
Je me souviens en particulier qu'il y avait André Glucksmann. Bref, qu'on avait installé sur des tréteaux, donc perpendiculaires en quelque sorte au mur. Et donc, nous sommes en place, tout est prêt. Il y a les lumières, il y a ce grondement qui vient de tréfonds de la foule qui nous entoure. Je vois le chancelier Kohl qui passe, et évidemment je vais vers lui.
Bien
et,
sûr.
On fait l'ouverture du journal, et c'est un moment extraordinaire. Et là-dessus, je vois mon ami De Villers qui fait de grands signes avec ses bras, et qui me signale qu'en gros, ça ne passe pas à Paris. Pourquoi ? Parce que dans le mur, il y avait des ferrets, il y avait de l'acier, il y avait du fer
pour tenir
les briques, les morceaux de béton. Et que ça avait faussé les calculs de De Villers pour taper le satellite.
D'accord.
Et donc le temps qu'il réajuste... Il faut imaginer
encore une fois
que c'était pas simple pour lui non plus.
C'était une première.
Et donc là, on est là, on se ronge les poings. À Paris, le pauvre Bilalion est obligé de prendre l'antenne, Hervé est derrière lui. Et donc ils improvisent en quelque sorte un truc de rechange avec quand même le son.
Oui.
Et puis, finalement, voilà, on arrive à taper le satellite.
Taper le satellite. Hervé Brusini, il faut que vous racontiez qu'il y a eu une guerre à ce moment-là, entre la 1 et la 2.
Oui. La 1 était complètement enfoncée.
C'est l'anniversaire du triomphe de Christine Ockrent.
Hein. Non, pas du tout, c'est une équipe.
Mais c'est une très belle histoire. Et du côté TF1, ça n'a jamais été digéré.
Oui.
La 1 n'a pas réussi à avoir la fréquence satellite.
Non. Parce qu'il y a une guerre après sur l'espace satellitaire. Comme vous savez, il y a les espaces pour les décollages et les atterrissages des avions. Oui. C'est la même chose pour un satellite. Et si vous n'avez pas prévu à l'avance, il y a des gros problèmes. Et d'ailleurs, après cette aventure très heureuse pour nous, on était hyper contents, mais c'est bien normal. Eh bien, ça va être une guerre de la prise du bon espace à la bonne heure pour taper le satellite.
Pierre Thivollet, qui était le correspondant de TF1 en Allemagne, a raconté la fureur des patrons de TF1, Moujotte et Lelay, de s'être fait dépasser par France 2. TF1, à l'époque, avait dû louer une moto et remonter en sens inverse les trottoirs pour aller jusqu'à une demi-heure de Berlin dans une chaîne est-allemande, diffuser des sujets en boîte. Et là, il avait dit à ses patrons depuis Berlin, si vous voulez, on peut faire du direct avec de la technique est-allemande, mais ça va coûter des valises et des valises de billets, et manifestement, la Une a craché les valises de billets. Je voudrais que, parce que vous l'avez eu, ce direct, et ça ne s'est plus arrêté. Je voudrais qu'on écoute le 11 novembre. Daniel Bilalian est toujours à Paris. Voilà ce qui se passe au JT d'Antenne 2.
C'est un moment à ne pas manquer.
C'est quand même un moment à saluer, c'est vrai. Oui.
Bien, alors on attend quelques secondes. Philippe.
Écoutez, voilà, tout de suite il se prépare. Donc si notre.
J'espère qu'on aura le son.
Notre ami
aussi.
Bernard Ronflet peut apporter.
L'image d'abord, peut-être. L'image.
La caméra sur Rostropovitch
et cet hommage qu'il rend à ce moment historique de notre histoire d'après-guerre.
La caméra sur l'épaule, voilà.
Non, moi ça n'a aucun intérêt. Qu'on repasse sur Monsieur Rostropovitch si c'est possible.
Voilà, tout de suite, c'est commencé, oui.
Voilà, et on se tait.
Et on se tait. Et on voit bien, alors évidemment, il y a l'effervescence d'un moment d'histoire avec un grand H qui se fait en direct à la télévision. Et il y a aussi les aléas du direct, comme vous venez de le raconter, Christine Ockrent.
Vous savez, Sonia, qui a prévu ce c'est Yves De Villers, c'est
encore
votre oncle. Non, mais il est quand même incroyable.
Parce qu'une fois qu'il avait compris comment ça marchait,
il voulait plus lâcher l'antenne.
Il avait croisé Rostro la veille, et il lui avait dit, écoutez, le lendemain, on est là, est-ce que vous voudriez bien? Et Rostro a dit,
mais vous rigolez,
tout à fait.
Rostropovitch, qui avait pu venir, si ma mémoire est bonne, grâce à l'avion privé d'Antoine Riboud, dont il était très ami,
Et qui donc, était le fondateur de Danone, hein, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, qui était à l'époque le grand patron de Danone. Et donc, Rostreau était arrivé, il me semble qu'il... Enfin, il était arrivé le matin du 11, me semble-t-il.
Ce qu'on entend là dans l'archive avec Daniel Bilalian, c'est que cette nouvelle grammaire, cette nouvelle façon de raconter l'information, qui est devenue tellement banale aujourd'hui, un type en plateau qui dit « Bidulette, Bidulus, vous qui êtes en direct de l'événement », ces mots-là, ces façons de faire-là, tous les présentateurs de JT l'ont intégré. Et là, on voit bien que Daniel Bilalian apprend en faisant Hervé Brusini.
Oui, parce que il apprend en faisant ce qui va devenir un marqueur de l'info, un marqueur de vérité. Je rappelle qu'il y a une idée convenue qui consiste à dire que quand on est en direct, c'est vrai, et quand on ne l'est pas, ça peut être trafiqué.
Ouais, enfin, on a vu l'inverse.
Cette année avec les Gilets jaunes, justement.
Mais voilà, et donc, c'est intéressant de voir comme une notion a pu évoluer et que le direct n'était plus le garant absolu d'une vérité de l'antenne.
Christine Ockrent. Mais à partir du moment, encore une fois, la technologie qui a tellement évolué en 30 ans permet à tout le monde et à n'importe qui de prendre de l'image qui est ou bien véridique ou bien fabriquée ou bien en direct, ou diffusé en direct, mais fabriqué en amont, sans qu'on le sache, vous avez aujourd'hui toute une gamme, une palette de possibilités qui rendent le traitement de l'info beaucoup plus difficile,
beaucoup plus complexe, absolument.
Alors, à l'époque, nous avions à expérimenter ces avancées. On en était évidemment les bénéficiaires, mais aussi parfois les victimes.
Oui. Vous l'avez vécu, cette accélération du temps de l'information. C'est ce qui s'est vraiment produit pour vous, journaliste de télé à l'époque.
Oui, mais c'est pour ça qu'à l'époque, me semble-t-il, les 20 heures étaient beaucoup plus intéressants à faire. D'abord, on avait plus de temps. Aujourd'hui, les journalistes et leur qualité n'est pas en cause, mais ils doivent aller très très vite. Et on a souvent l'image avant de connaître le fait. L'image vous tombe dessus avant même que l'on connaisse les tenants et les aboutissements d'un événement.
Est-ce que finalement tout ça n'a pas montré les risques ou en tout cas les abîmes vertigineux qui allaient s'ouvrir sous les pieds des journalistes un mois après, donc on est au mois de décembre 1989, la Roumanie communiste s'effondre. Je vous rappelle qu'il y a une chaîne privée à l'époque qui s'appelle La 5, que Guillaume Durand est aux manettes de l'info et que dans cette course au direct, dans cette surenchère au direct, on va être en direct de la Roumanie, et on va commettre une erreur journalistique majeure, celle de croire, entre autres, à l'histoire d'un charnier à Timișoara, Hervé Brusini. Oui. Très rapidement, on a vu ce que ça pouvait donner le direct, en fait.
Oui, alors je me sens très coupable, parce que sur la 2, c'est moi qui ai poussé la direction de l'info, c'était Betty Dureau, qui m'a dit, appelle le président pendant qu'il y est. Et j'ai eu le président, et je lui ai dit, écoutez, il y a La 5 qui est là en direct du studio 4, je crois. Oui. Et on peut pas, nous, ne pas être en direct. Et là, les robinets se sont ouverts. Nous ignorions tout, en fait, de ce qui était en train de se passer. Nous n'étions pas, en direct sur le terrain. Nous étions en train de diffuser en direct des images venues d'ailleurs. Ce que je veux juste dire, c'est que quand le journalisme se réduit à une technologie, il perd son âme.
C'est ça.
C'est ça. Le sujet grave.
Et le mot de la fin ?
Le mot de la fin, c'est que c'est l'émotion. C'est l'émotion qui imprègne un récit, qui imprègne un témoignage. Oui. Il ne faut pas que l'émotion se substitue à la véracité des faits.
Absolument. Merci beaucoup, Hervé Brusini et Christine Ockrent. Christine Ockrent, on vous donne rendez-vous samedi à 11h pour votre émission sur France Culture.
Comme tous les samedis.
Affaires étrangères, comme tous les samedis. Mais là, ce sera Le Mur 30 ans après.